Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser poursuit ce soir sa réflexion sur la victoire paradoxale du droit après 89, une victoire à la Pyrrhus, en compagnie de Benoît Friedman. Après la chute du mur, le modèle libéral s'impose comme le seul pertinent. Il n'a plus d'alternative. C'est le triomphe de l'économie de marché. Un modèle qui va influencer profondément le droit. La règle de droit elle-même est victorieuse, mais elle est altérée par ce triomphe du modèle de l'économie libérale appelé néolibéral. On voit en effet fleurir de nouvelles techniques comme les normes ISO, le benchmarking, les agences de notation, autant d'instruments normatifs qui pourraient bien dessiner la mort du droit, ou du moins la mort d'une certaine conception du droit. C'est des questions que l'on se posera en compagnie de Benoît Friedman. Benoît Friedman, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles et qui est professeur affilié aussi à Sciences Po à Paris, qui est chercheur au Centre Perelman de philosophie du droit, qui travaille sur la raison juridique, sur les évolutions de la raison juridique et qui est l'auteur notamment d'un petit manuel pratique de droit global. Bonsoir Benoît Friedman.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, un mot sur 89, parce que vous suivez, je le disais à l'instant, les évolutions du droit, les évolutions profondes du droit. Vous avez notamment écrit un livre très savant sur l'interprétation en droit. Et alors, l'histoire semble s'accélérer après 1989.
Absolument. Moi, 1989, pour le situer dans ma vie personnelle, c'est le moment où je termine mes études universitaires et je commence la profession d'avocat. Et je dois dire que au moment de regarder de manière médusée les images de la chute du mur, je ne mesure absolument pas ce que ça va représenter. Enfin, je veux dire, on est frappé dans le moment par la libération formidable de ces gens, mais pas un instant. Je ne pense que ça va avoir une répercussion sur notre vie, sur l'organisation de notre société.
C'est la victoire de qui, 1989, pour vous, Benoît Friedman?
Vu d'aujourd'hui.
Oui, oui. On n'a pas le même sentiment aujourd'hui.
Ah non, les choses vont évoluer. C'est en tout cas un coup d'accélérateur très important pour ce qu'on appelle depuis longtemps maintenant la globalisation.
C'est même l'acte de naissance d'une nouvelle globalisation.
C'est l'acte de naissance d'une nouvelle globalisation, c'est-à-dire ça dépend certainement pour nous les Européens, c'est comme ça qu'on le voit. Moi, quand je vais commencer les premiers séminaires en 1993, le premier sera les conséquences de la mondialisation sur le droit. Maintenant, si on a une perspective américaine, elle est sans doute différente. C'est-à-dire qu'on voit, y compris dans la littérature, que l'idée du global s'impose dès après 1945.
Donc, on ne se rend pas compte du tout, en tout cas, ce qu'on a vu avec Giuliano da Empoli, on ne se rend pas compte du tout que, en réalité, c'est aussi la fin d'une certaine exception européenne, d'un certain exceptionnalisme européen qu'on ne voyait pas. L'exceptionnalisme, il était uniquement américain. En réalité, on était un peu surclassé par la guerre froide.
Oui, absolument. On a mieux mesuré ensuite, et on le mesure encore aujourd'hui, avec, au fond, la fragilisation, voire le démantèlement de l'État social, que cette situation d'État social dont nous bénéficions était en réalité assez exceptionnelle. Bien entendu, c'était une situation bien plus favorable presque à tous égards que nos amis européens de l'autre côté du mur, mais c'était aussi une situation exceptionnelle par rapport aux autres modèles capitalistes et on sait que finalement depuis lors on tente à nous normaliser en quelque sorte sur ce modèle plus hypercapitaliste et on peut se dire, enfin c'est quelque chose qui s'est écrit et qui me convainc personnellement, que si on a toléré un tel modèle de social-démocratie, État-providence en Europe de l'Ouest, si on a été en quelque sorte un peu chouchouté après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que on était sur une carte géopolitique où on voit que, au fond, le continent eurasien est devenu entièrement rouge, à l'exception de sa frange extrême orientale, avec le Japon, l'archipel nippon et la France, la frange extrêmement occidentale avec la Grande-Bretagne et la petite Europe de l'Ouest, c'est parce que nous sommes à ce moment-là un bastion tout à fait stratégique et finalement fragile et qui aurait pu être tenté même par rejoindre le bloc communiste.
C'est ça. Dominant. C'est pour ça qu'il fallait le chouchouter et c'est pour ça que son état social se porte bien. C'est des périodes d'explosion économique. Et alors, vous êtes jeune professeur de droit, jeune avocat, et vous enseignez, vous avez été un des pionniers d'ailleurs dans ce domaine, à étudier le droit global. Franchement, Benoît Friedman, est-ce qu'à ce moment-là, le droit global, c'est pas quelque chose de fascinant? C'est pas un objet d'étude qui paraît très moderne et qui va nous sortir d'une sorte de ringardise des études de droit?
Alors, là, je veux faire une précision, Antoine Garapon, parce que le droit global tel que nous le travaillons effectivement depuis longtemps et quasiment depuis cette époque, ça ne veut pas dire le droit universel.
Donc, c'est même le contraire, par certains côtés.
C'est même le contraire. Donc, c'est pas du tout l'idée qui aurait pu être le cas, qui a été le cas avec l'idée de la fin de l'histoire. C'est la victoire des droits de l'homme et de la démocratie qui sont le seul et unique modèle valable qui doit s'imposer maintenant au monde entier et que nous allons pouvoir exporter et notamment enseigner à nos amis de l'Est quand ils rejoignent le Conseil de l'Europe et puis l'Union européenne. Mais il y a un autre sens du mot droit global ici et qui est rejoint ce que vous avez dit en ouverture sur un modèle Foucault l'appelait le contre-droit. Un modèle de contre-droit, c'est-à-dire le fait que le point crucial de ce droit global, c'est que le monde devient, les échanges sont mondiaux et le monde est et a toujours été un espace non souverain. Donc alors qu'on pensait la régulation, la norme, etc. À partir de la souveraineté dans un cadre principalement national, une sorte de nationalisme méthodologique comme on l'a fait dans pratiquement toutes les sciences, tout d'un coup, on se rend compte que puisque les personnes, les biens, les personnes, les transactions financières, les risques, les gaz à effet de serre circulent par-delà les frontières, il va falloir des normes supranationales, internationales, mais surtout globales, c'est-à-dire, la différence étant ici, que ce ne sont pas nécessairement des normes fabriquées par des États ou des groupes d'États.
Alors, elles sont fabriquées par qui, ces normes?
Alors, elles sont en réalité... Donc, je pense qu'il faut, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est d'abord les dispositifs normatifs. On a tendance, nous, c'est de manière tout à fait logique, on pense d'abord, oui, mais quelle est la règle? Quel est le contenu de la règle? On a vu un des premiers domaines de la globalisation, moi, celui que j'ai en premier travaillé, c'était l'Internet. Et l'Internet, ça posait des problèmes qui sont un peu du même ordre que ceux qu'on pose maintenant avec les fake news, etc. C'est-à-dire de savoir, au fond, le contrôle des contenus. Est-ce qu'on peut tout dire sur Internet? Qu'est-ce qu'il faut sanctionner, etc. Or, de ce point de vue-là, il y a toujours pas d'accord sur rien, puisque non seulement les pays autoritaires ont pas la même conception que nous autres démocraties, mais même entre nous et nos amis américains, on n'a pas les mêmes standards de ce qui se peut se dire.
Pas les mêmes cultures, pas la même sensibilité historique notamment.
Pas la même sensibilité historique. Et alors ce qui pourtant s'est fait, et les Français ont joué un rôle tout à fait essentiel avec l'affaire Yahoo, pour ceux qui se rappellent à l'époque, cette histoire du juge Gomez au tribunal de grande instance de Paris, disant vous Yahoo, vous avez beau être une firme californienne, on ne veut pas qu'on puisse vendre des accessoires et des pins nazis qui soient accessibles sur des sites accessibles depuis le territoire français. Et on va voir à ce moment-là tout un dispositif qui va se mettre en place des dispositifs de contrôle des contenus qui vont se mettre en place avec des efficacités variables, mais où on n'a pas de règles communes. Alors, et on a quand même de la
régulation.
Des dispositifs qui commencent et qui vont amener des pouvoirs privés. Regardez Google dans le droit à l'oubli, faire eux-mêmes. Mettre en place le dispositif.
Benoît Friedman, qu'est-ce la seule chose qui puisse nous réunir, est-ce que c'est pas la technique? Est-ce que on n'assiste pas? Et c'est ça la grande nouveauté, parce que les juristes sont pas habitués à regarder les normes techniques. Mais en réalité, c'est à travers, entre autres, les normes techniques, les normes ISO, les normes de vitesse des flux, d'ouverture des canaux, etc., que va se sécréter ce que vous appelez un dispositif normatif. Et ça, on sait pas comment l'appréhender.
Oui, c'est tout à fait ça. Et il y a deux dimensions. Il y a la première, elle est politique au sens noble du terme. C'est que vous ne pouvez pas exercer de manière efficace un pouvoir si ce pouvoir n'est pas là. Hein. Oui. Donc, c'est bien beau de décréter pour la terre entière qu'on pourra ne plus faire ceci, etc. Mais si vous n'avez pas les moyens que vous offre à l'intérieur de chez vous la souveraineté, eh bien, ça ne fonctionne pas.
Il n'y a plus de gendarmes.
Or, du coup, ces instruments comme la loi, comme la police, etc., marquent leurs limites. Hein, parce que si, évidemment, vous contrôlez tout ce qui se fait sur Internet, mais à l'intérieur de votre frontière, ce qui est d'ailleurs pas possible non plus, eh bien, vous n'avez, c'est pas pour autant que vous avez rien régulé du tout. Donc, il y a un aspect que ça ne sert à rien d'utiliser les instruments de la souveraineté, qui sont en fait ceux que nous considérons comme les instruments classiques du droit, disons la loi, le juge, dans un espace non souverain. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est, et ça c'est le volet numérique du tournant global, hein, parce que on a parlé de global et on en parle toujours, mais il y a un aspect révolution numérique là-dedans, qui est qu'effectivement, on va pouvoir recourir à un appareil technologique pour créer ces dispositifs.
Il n'y a pas que le numérique, parce que le numérique, c'est ça qui est intéressant dans l'après-89 et dans le droit global, ce qu'on va voir, et ce qui continue toujours aujourd'hui, par certains côtés, un peu moins, c'est qu'il y a une comparaison possible entre ce qui se passe en économie, ce qui se passe d'un point de vue technique et ce qui se passe d'un point de vue politique aussi, parce que le grand phénomène, c'est quand même la déterritorialisation. La globalisation, c'est qu'il n'y a plus de frontières, donc, cette déterritorialisation fait que on va se fier aux normes techniques, vous venez de le dire, on va compter, on va faire des classements, on va faire des notations avec des véritables notes, et là aussi, on voit apparaître des instruments tout à fait nouveaux, Benoît Friedman.
Oui, alors, on peut en prendre, si vous voulez, quelques exemples. Vous évoquiez les normes techniques du type norme ISO. Donc, la norme technique, c'est celle qui dit au départ quelles sont les dimensions de la vis et de l'écrou, afin d'assurer que quand vous achetez des vis et des écrous,
ça puisse coller, qu'ils puissent visser.
Voilà, exactement. Hein, ça, c'est historiquement, d'ailleurs, les premières normes internationales.
Mais aujourd'hui, par exemple, j'ai pris le train récemment, c'était Gare SNCF certifié norme ISO.
Absolument. Donc, on a ces normes techniques qui sont tout sauf nouvelles, qui remontent, dont l'origine est d'ailleurs aussi ancienne, voire plus ancienne que le droit lui-même. Vous savez, quand on va dans la salle des antiquités babyloniennes du Louvre, on a la grande chance de contempler la stèle d'Amourabi. Si il y a beaucoup d'autres statues dans cette salle, vous allez quelques mètres plus loin, vous voyez une des nombreuses statues de Goudéa, qui est un roi de Chaldée lui aussi. Oui. Et là, vous le voyez, avec tout un tas de normes techniques. Donc, vous voyez, à ses pieds, il y a une règle qui devait être l'étalon de mesure des constructeurs. Et il y a aussi tout un tas de normes, de chiffres, excusez-moi, qui donnaient les différentes mesures.
Les poids et mesures. C'est ce qui va persister ou qui va renaître ou qui va prendre une place extrêmement importante dans la mondialisation.
Oui, absolument. Parce que vous allez avoir, alors que, contrairement aux espoirs qu'on avait formés, l'idée d'un gouvernement consensuel, politique, basé sur l'état de droit, la démocratie, les droits de l'homme, etc., on sait que ça va très vite marquer ses limites, si tant est que ça n'ait jamais été un projet, en tous les cas pour ceux qui ont les moyens de le mettre en œuvre. Ce qui va se passer, c'est que on va transférer, et c'est vrai au niveau du monde, et c'est vrai au niveau de l'Europe aussi, on va transférer les règles, on va changer d'outil, on va changer de cheval, et au lieu de faire du traité international, au lieu de faire de la loi, on va faire de la norme technique. L'exemple le plus frappant de ça, c'est la commission Delors, en 1985, qui veut faire le marché unique, dont le grand problème est qu'il faut pour ça harmoniser tous les produits, toutes les marchandises.
Mais c'est le projet d'Europe, Benoît Friedman. Le projet de l'Europe est un projet d'harmonisation technique des normes, d'abord.
Voilà. Et avant, si vous voulez, on le faisait par directive, c'est-à-dire une loi européenne. Et là, on va décider, c'est Delors qui va le décider, de dire non, tout ce qui concerne, mais attention, c'est pas rien, les exigences en matière de sécurité, de santé, d'environnement,
de
des
chimie,
produits,
de chimie,
eh
combien,
bien, on va le donner à la normalisation technique et on va, donc ça ne passera plus par
eux,
la loi.
Et c'est eux qui paramètrent le monde. Ce sont les techniciens, ces normes, des gens qui ne sont pas du tout mandatés pour édicter la loi, qui vont façonner le droit global. C'est vrai d'ailleurs, c'est vrai de la technique, c'est vrai du marché aussi, si on pense aux agences de notation. C'est-à-dire que ceux qui vont noter le marché appartiennent eux-mêmes au marché, ne sont plus des instances souveraines, sont des entreprises à but lucratif, explicitement lucratif. Et donc, il y a quand même quelque chose d'extrêmement fragile là-dessus, Benoît Friedman, non ?
Oui, alors Antoine Garapon, effectivement, on souligne souvent ce côté endogène. Il n'est pas forcément le cas. Et donc là, je voudrais apporter peut-être une nuance, parce que dans la norme technique, vous pourriez très bien avoir le même fonctionnaire qui prépare les projets de loi, qui prépare les normes techniques. Donc, c'est pas essentiellement le qui compte. C'est le quoi ? C'est l'instrument. C'est-à-dire que la norme technique, elle ne prétend pas s'appliquer de manière obligatoire. Oui. Elle fonctionne selon...
De fait, on a parlé de la Chine. Je vais prendre l'exemple de la Chine parce qu'il est très explicite. On en parlait d'ailleurs avec Laure Deron. Les fameuses routes de la soie. Elles construisent des aéroports, elles construisent des trains, des rails. Il faut bien qu'il y ait des normes pour tout ça. Il faut qu'il y ait des normes, l'écartement des rails, un exemple que tous les auditeurs vont comprendre. Et à travers ces techniques, qui sont pas toujours les normes occidentales d'ailleurs, se perd d'ailleurs un conflit de pouvoir. Mais je voudrais qu'on passe à une autre chose qui me frappe beaucoup, parce que ça aussi c'est lié au monde ouvert, c'est les fameux classements. Le classement de Shanghai, oui. Vous êtes universitaire en Belgique, et tout d'un coup, le critère d'évaluation académique n'est plus la réputation, n'est plus l'excellence académique reconnue par ses pairs, mais c'est des paramètres. Le classement de Shanghai, le nombre de citations, c'est-à-dire que le jugement de qualité devient un jugement chiffré.
Oui, donc il y a, et d'ailleurs, il ne faut pas penser que les normes techniques et les classements sont deux dispositifs différents, sont deux dispositifs qui ont effectué leur fusion au moment très simple où on a commencé à appliquer les normes techniques non plus seulement aux produits, mais aux services, c'est-à-dire au comportement
et aux institutions.
Et aux institutions. Donc vous avez les deux technologies qui se sont confondus avec, d'une part, c'est un outil managérial, un outil de management qui dit, ben, on va mesurer en temps réel et sur la longue durée les performances de chacun des acteurs et notamment la qualité, tout le contrôle de la qualité du service qui est rendu. Et donc, ça va nous permettre de mettre en concurrence absolument tout le monde, travailleurs, de juges, puisque vous êtes magistrat Antoine Garapon, deux juges dans un tribunal, deux universités dans le monde académique, deux États dans l'index
Doing Business. Oui, vous avez raison de parler des juridictions et des juges, parce que dans l'Union européenne et dans le monde, dans la mondialisation, ils sont effectivement en concurrence les uns avec les autres pour pouvoir contribuer à définir la norme qui va réguler, c'est vrai en matière économique et financière, où ça a été d'ailleurs une prédominance des cours de common law, mais c'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde est en concurrence avec tout le monde, y compris les juges qui, a priori, exerçaient une fonction souveraine. Donc, cette mise en concurrence, on va même atteindre quelque chose d'absolument révolutionnaire pour le juriste que vous êtes, qui est imaginer de réguler le monde par le marché. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de la technologie, vous me voyez venir, Benoît Friedman, c'est la taxe carbone. C'est-à-dire, on va réguler les échanges de production et les échanges commerciaux, possiblement polluants, en créant un marché artificiel.
Oui, absolument. C'est une idée dont on peut d'ailleurs être frappé à quelle vitesse elle a été mise en œuvre. C'est une idée au départ très théorique, hein, qui vient des économistes, qui a été testée aux États-Unis. De là, elle est passée à l'OCDE. Les Européens n'en voulaient pas, puis ils ont viré leur cutie. Finalement, on l'a mis en place en Europe. C'est notre droit européen de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons un marché carbone qui touche...
En deux mots, comment ça marche, le marché carbone?
Le marché carbone consiste à... si vous voulez, ce sont des autorisations administratives qui sont accordées à n'importe qui. Ça pourrait être des individus, hein, quand vous prenez l'avion. En l'occurrence, c'est des entreprises. Ça pouvait être des États, comme dans l'affaire de Kyoto, hein. Les autorisent, donc, les détenteurs de ces droits à émettre une tonne de carbone. Oui. Voilà. Mais ça ne fait pas encore un marché. C'est une autorisation administrative. Donc, on dit, vous êtes EDF, vous avez quand même encore des centrales qui ne sont pas nucléaires. Donc, on vous accorde autant de droits, mais vous ne pouvez pas polluer plus. C'est un contingentement, en fait. Mmh. C'est le contingentement d'une ressource rare. Pourquoi est-ce qu'on crée un marché? Quel est le principe du marché? C'est très simple. C'est que ces quotas, vous pouvez les vendre et les acheter. Donc, si EDF a trop de quotas parce qu'il fait plus de nucléaire, il va vendre ces quotas, par exemple, à une cimenterie qui, elle, ça produit beaucoup de carbone, les cimenteries, parce qu'il faut chauffer très, très fortement. Et on ne va pas changer les fours dans la minute parce que c'est une technologie assez lourde.
En quoi, Benoît Friedman, pour essayer de comprendre ce nouveau paysage normatif qui se dessine après 89, qui est comme on le voit, qui est totalement révolutionnaire pour le coup, c'est-à-dire qu'on va réguler les échanges commerciaux et on va réguler également les comportements, on va en venir dans une minute, de manière qui ne passe plus par on édicte une règle et on a fait observer l'application et on sanctionne ceux qui ne la respectent pas. Ça ne disparaît pas, mais c'est réservé à un tout petit nombre de matières traditionnelles. Le reste, c'est régulé de manière totalement nouvelle.
L'idée, c'est que c'est pas efficace. Si on continue dans l'histoire de la pollution, qu'est-ce que ça veut dire prendre une règle? Ça veut dire interdire telle activité polluante. Nous faisons ça, nous le faisons tous les jours dans notre droit d'interdire telle activité ou d'imposer l'usage de technologies plus propres. On considère que c'est infaisable, très très compliqué et nuisible parce que l'État a toujours une ou deux inventions en retard, c'est-à-dire
il n'est pas à l'échelle
puisqu'il va préconiser des technologies alors il va bloquer l'innovation en quelque sorte. Donc l'idée à ce moment-là d'introduire de la souplesse du marché, ça veut dire c'est le théorème de l'efficacité économique, c'est-à-dire que ça veut dire que dès lors que les gens pourront s'échanger les quotas de pollution, la conséquence théorique sera que les économies d'énergie vont se faire là où elles coûtent le moins cher, là où elles sont le plus faciles à faire et elles coûtent le moins cher. Et c'est donc le marché, en quelque sorte, qui va déterminer un prix du carbone.
Et qui, par le mécanisme du prix et par son mécanisme propre de marché, va réguler les échanges mondiaux.
Voilà. Sauf que, évidemment, jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné du tout.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseux sont ravis. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses et les cafés nettoient leur glace.
Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec Benoît Friedman, sur les transformations du droit après 1989, qui sont des absolument considérables, mais Benoît Friedman qui a choisi de nous faire entendre Paris s'éveille dans une version originale.
Oui, absolument. Donc, moi, vous savez, je viens de Belgique. Donc, il s'agit de Anne Pierlet, qui est une artiste flamande. Et je trouvais que la manière dont elle avait repris ce grand classique était assez déjantée et assez bien dans l'esprit de mon pays.
L'esprit de votre pays, est-ce que c'est aussi l'esprit de 89, de l'après 89, c'est-à-dire on a l'impression d'un droit qui part dans tous les sens, ou du moins qui dérape. On pourrait se poser la question avec vous, Benoît Friedman. Et je voudrais qu'on dise un mot des droits. Alors, on a parlé de la régulation globale, mais la mondialisation, c'est pas uniquement des échanges qui concernent l'extérieur des États. C'est aussi des modifications profondes de notre vie à nous tous, l'après 89. C'est oui. aussi un changement des rapports intersubjectifs, on pourrait dire.
Oui, en dehors de mon domaine de spécialité, mais nous le savons tous, on parle d'une hyper-individualisation. Ça se traduit d'une manière totalement fascinante sur le plan du droit. Où là aussi, on a vu qu'au niveau des normes globales, c'était plus un contre-droit une nouvelle évolution du droit.
Ou un droit qui est inscrit dans la matière, dans la technique,
dans les choses. Dans les flux. Oui. Dans les flux, dans la monnaie, dans les paquets d'informations,
etc. C'est un peu un infradroit qui prend le pouvoir.
Alors, infradroit, c'était la phrase de Carbonnier, oui. et c'est contesté par Foucault. Michel Foucault nous aide beaucoup à penser ce droit d'aujourd'hui, même s'il était mort avant 89.
Pourtant, c'est celui qu'il décrit le mieux.
Mais c'est celui qu'il décrit le mieux. Mais alors, il avait sans doute entendu parler de Carbonnier et de son infradroit. Il disait, non, c'est pas un infradroit. C'est pas en dessous du droit. C'est contre le droit. C'est un concurrent du droit. Il vise à le remplacer. Et il l'a. Enfin, vous avez, Foucault pensait qu'il l'avait déjà remplacé depuis très très longtemps, surtout par rapport à ce que les juristes pensent habituellement. Mais donc, ça, c'est sur l'aspect norme globale. Sur l'aspect destruction du droit par l'individualisme, on a évidemment quelque chose qui est une de nos plus grandes valeurs, une des plus grands acquis après 45, c'est la positivité des droits de l'homme, avec leur caractère justiciable, en particulier par la Cour européenne des droits de l'homme, avec cette idée qu'on pourra attaquer un État lorsque il viole les droits fondamentaux. Alors, ce qu'on a vu, c'est que à la fois ces droits fondamentaux sont devenus d'une certaine manière la norme fondamentale, puisqu'il y avait une valeur quasiment supraconstitutionnelle,
quasi sacrée, oui.
Et qu'en même temps, phénomène déjà observé avant, puisque les droits subjectifs, ça date de la modernité, ça date pas de bien sûr, on le sait, hein, ça ne date pas de 1989, s'il fallait les dater d'un 89,
ce serait 200 ans avant. Mais pourtant, ils reçoivent un sacré coup d'accélérateur après 89.
Oui, ils reçoivent un statut, en quelque sorte, en surplomb du droit. Et en même temps, ça ne va pas nécessairement les favoriser, puisqu'on va s'apercevoir que chaque fois que quelqu'un invoque un droit de l'homme, quelqu'un d'autre invoque son droit contraire. Donc, par exemple, de manière plus ou moins justifiée, ceux qui ne supportent pas les blasphèmes que les uns font au nom de la liberté d'expression se drapent dans leur liberté de religion pour dire qu'ils peuvent pas être insultés. Et à ce moment-là, alors on a des conflits de droit qui sont à peu près insolubles, sinon par des méthodes qu'on emploie, des mesures, des balances des intérêts qui sont incompréhensible par rapport à la logique même des droits de l'individu que sont les droits de l'homme.
Et alors pour le juriste qui est habitué à appliquer la loi, tout d'un coup, on lui demande d'arbitrer entre des droits concurrents. Et absolument. Paradoxalement, la multiplication des droits personnels, des droits subjectifs, des droits A, va troubler aussi beaucoup le droit. On pourrait prendre l'exemple du genre, hein, qui est le dernier en date.
Oui, c'est-à-dire que effectivement, vous avez, j'insiste Antoine Garapon sur ce que vous venez de dire parce que c'est important, c'est-à-dire que le conflit de droits affaiblit en fait la règle, oui. Puisque les droits sont au-dessus des règles. en quelque sorte, et ça peut aller jusqu'à supprimer les catégories du droit. Alors, on est dans des débats qui sont d'actualité, de grande actualité, aujourd'hui, où se dessine aux États-Unis, mais vous allez voir, ça va arriver chez nous aussi, un conflit assez virulent entre les féministes d'un côté et d'autre part les transgenres. Alors, pourquoi un conflit entre eux alors que il s'agit de minorités qui ont travaillé la main dans la main, bien entendu, et il s'agit à la fois d'empêcher la discrimination, de lutter contre la discrimination dont les femmes sont victimes, mais aussi la même chose pour, vu les personnes de même sexe. Et puis alors, on voit aujourd'hui que les personnes transgenres puissent vivre leur identité. Mais vous voyez le conflit qui apparaît.
Oui. Les femmes sont-elles des femmes s'il y a les transgenres ?
Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et encore une fois, sans porter aucunement un jugement de valeur, certainement pas négatif, sur ces causes qui sont tout à fait légitimes, mais à partir du moment où on dit, en réalité, il y a le genre masculin, il y a le genre féminin, puis il y a une case neutre, et puis qu'on arrive en réalité à un discours qui est déjà désormais et qui s'appuie sur des aspects scientifiques, qui consiste à dire, mais en réalité, la distinction des genres n'est pas binaire, c'est une échelle continue. Nous sommes plus ou moins entre l'homme et la femme, et peut-être nous sommes encore ailleurs, que sais-je. Eh bien, vous avez à voir un problème à définir dans quelle catégorie les gens se placent. Oui. Et puis, on va dire au nom de la liberté, mais ils n'ont qu'à choisir. Ils peuvent choisir. Hein. Ceci est déjà en droit positif. Dans mon pays, c'est déjà le cas. Donc, le choix du genre devient disponible. Mais à partir de ce moment-là, quand vous avez, au fond, rendu flou les catégories, que vous permettez aux gens de choisir, eh bien, comment vous faites une politique de type féministe, hein, quand vous commencez à dire, oui, mais il faut tel pourcentage, comme vous l'avez fait en France, il faut tel pourcentage de femmes dans les conseils d'administration. Mais c'est quoi encore une femme? Alors, vous allez me dire, je cherche la petite bête, on parle de cas limite, etc. Pas du tout. Et ce qui le montre, c'est l'exemple du sport.
Parce que dans le sport, eh ben, il faut qu'il y ait des catégories hommes ou femmes. Ben, il n'y a pas l'entre-deux.
C'est-à-dire que, pour le moment, il y a deux catégories hommes et femmes, mais ce qui se passe surtout, c'est que ce que vous voyez, c'est qu'il y a des gens. Donc, non seulement on n'accepte pas que telle personne se signale comme femme, mais on a des personnes qui ont toujours été, qui ont eu un état civil de femme sur leur carte d'identité, auxquelles on va dénier la qualité de femme sur base d'une série, alors là on est de nouveau dans la norme, hein, d'une série de valeurs hormonales qu'on va
c'est
mesurer.
Ça. On retrouve la norme technique.
Et on va dire en dessous d'un certain taux de testostérone, etc. On retrouve la norme technique. Et là, il y a un paradoxe total. C'est-à-dire que non seulement on a perdu la règle, au nom de ce qu'on pensait être un pur choix individuel, mais qu'en réalité, ce pur choix individuel étant intenable dès lors qu'il s'agit d'arbitrer les conflits et les questions, on va se retourner sur une définition purement chimique de ce que c'est le genre, c'est-à-dire exactement à l'opposé de ce que ceux qui ont privilégié cette catégorie de genre par opposition à la catégorie naturelle du sexe voulaient au départ.
Benoît Friedman, je rappelle que vous êtes philosophe du droit et juriste, et ça trouble beaucoup parce qu'on voit que la loi, c'est pas la forme de loi qui était en soi importante. Ce qui est important, c'était la forme qui exprimait une volonté politique, un certain dessein d'une vie souhaitable entre nous tous pour gérer la coexistence collective. Et on voit qu'à travers la norme technique, cette capacité du droit et de la règle est mise à mal, est en difficulté.
Oui, et en tout cas, alors, on pourrait accepter ça, de dire au fond, dans la norme technique, on voit la norme qui à un moment émerge, hein, on va voir ce qui est moyen en général, et puis on va définir une moyenne souhaitable qu'on va appeler en bon français, un benchmark. Oui. Et puis on va inciter.
Toujours le classement.
On va inciter. Bien sûr, c'est exactement ce modèle-là.
C'est la même technique. Oui.
Hein, c'est ça, c'est de ça dont on parle. On va inciter les gens à aller vers le benchmark par des incitations positives ou négatives. On va les exclure. Nous venons de voir ça. Mais, si vous voulez, indépendamment de cette question.
Oui, mais ce qui est intéressant, eh bien, c'est que à travers ce que vous décrivez et ce que vous avez montré à partir du numérique, à partir de l'économie à partir des relations interindividuelles. Benoît Friedman, vous parliez de Foucault, on voit se dessiner un mouvement, un changement de paradigme, pour prendre les grands mots. C'est-à-dire que après 89 va s'opérer dans le droit un nouveau régime de vérité. Le nouveau régime de vérité. Une vérité qui ne passe plus par le droit, et donc par la politique, qui ne passe plus non plus par le positivisme, par des règles techniques où le décret doit être conforme à la loi à la constitution au traité, etc. Non, on est dans des dispositifs normatifs éclatés, décentralisés, horizontalisés, et qu'on ne maîtrise plus. On se demande où est le législateur, Benoît Friedman, de ce nouveau droit.
Oui, absolument. Ça me permet de rebondir sur votre question précédente à laquelle j'ai pas répondu, qui était de dire, on en a l'impression qu'effectivement c'est le dispositif qui produit la norme et qui a pas de volonté dedans. On peut être un peu plus soupçonneux et de dire que c'est aussi une bonne manière de dissimuler les volontés qui sont à l'œuvre. Cette volonté n'étant plus élaborée, parce que
je vais vous dire, c'est un pouvoir qui ne se nomme pas.
Voilà, quand on voit les normes financières qu'on impose aux États. Elles sont quand même loin d'être neutres. Elles servent un certain modèle. Hein. Et donc, si on n'a plus de législateur, ça ne veut pas dire que ceux qui peuvent opérer ce type de dispositif de manière efficace ne peuvent pas imposer par là ce que j'appelle le référentiel normatif sous-jacent. C'est-à-dire que derrière tout classement, il y a quelque chose qui dit, si vous avez pris la bicyclette plutôt que la motocyclette, ben vous avez 5 points et dans l'autre cas vous avez 1 point, il y a une norme derrière.
Bien sûr. Une norme qui dit une norme dit non seulement un classement, un calcul, la mathématique, mais aussi une vision du monde. Mais le point qui me semble important et préoccupant d'ailleurs, c'est que ces dispositifs techniques, je pense aux mathématiciens de la Silicon Valley, je pense aux Européens qui décident les normes techniques à partir de REACH. Je pense aux Chinois qui investissent massivement en Europe aujourd'hui et qui arrivent avec leurs normes techniques. Ça veut dire que ce qui était essentiel pour le droit, Benoît Friedman, c'est qu'il y avait un processus de représentation. Le droit, il était pris par des personnes dans le Parlement, dans un tribunal, dans un conseil d'administration, où vous savez qui ils étaient, et ils édictaient quelque chose qui était écrit, qui était visible, qui était contestable, qui parfois d'ailleurs générait de la violence. Mais on était dans un monde de formes de formes juridiques. Et tout se passe aujourd'hui comme si le droit qui apparaissait la grande référence d'après 89, s'est pulvérisé jusqu'à devenir quasiment invisible.
Oui, c'est absolument de cela qu'il s'agit. Et effectivement, quand vous voyez tous ces dispositifs de type managériaux, les indicateurs, les classements, les normes techniques, c'est là où c'est suspect, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a aucun moment où une décision est prise par quelqu'un au nom d'une collectivité. Donc ce moment... Et pour une finalité quelconque. Ce moment-là, il est en tous les cas gommé dans le processus. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... On n'a qu'à voir comment ça se passe dans une entreprise où les personnes qui nous écoutent et qui, Antoine Garapon, et qui travaillent dans les entreprises, ils ont des objectifs, des évaluations, des incitants positifs et négatifs.
Ils se comparent constamment les uns aux autres. Machin a fait tant de ventes et toi un peu moins, etc.
Oui, et on imagine, et vous savez bien, tout le monde sait que tout ça est mis en place par l'entreprise dans un but extrêmement précis.
On va répondre, mais ça c'est des mathématiques, c'est des chiffres. Qu'est-ce qu'on peut dire contre des chiffres? La statistique n'est pas dialectique, disait Sartre. On est confronté dans un monde de chiffres, et ça c'est la grande, grande caractéristique qui perturbe quand même beaucoup les juristes.
Absolument, et donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Alors, il y a ceux qui, et c'est un rôle indispensable, dénoncent, mais lorsqu'on est juriste...
C'est pas facile à dénoncer, parce qu'on a vu, et les auditeurs ont pu se rendre compte qu'on rentre très très vite dans la technique, dans une technique normative, mais il faut se mettre les mains dans le cambouis, c'est pas toujours évident.
Absolument. Il y a ceux qui dénoncent, qui se contentent de dénoncer, c'est pas très efficace. Il y a ceux qui analysent pour dénoncer. Et puis, alors, il y a une étape suivante qui est se dire, si ça nous plaît pas, plutôt que de simplement crier, qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce qu'on met en place? Sachant que, on a un phénomène qui n'a pas changé, c'est la lutte pour le droit. C'est-à-dire que forcément, ces mécanismes-là, eh bien, on peut lutter. Et donc, moi, l'idée que j'ai défendue, je suis très loin d'être le seul, enfin, nous au Centre Perelman, mais nos amis de New York, de la Global Administrative Law, sont sur des idées très proches, c'est de dire, attention, quand vous avez des indicateurs, qui produisent des effets sur la liberté, les droits, voire la vie des personnes. Hein. Prenons, vous avez eu un grand débat en France sur les logiciels automatiques de détermination des études. Mmh. Eh bien, il faut à ce moment-là que le droit classique mis sur le côté se réapproprie la chose, c'est-à-dire qu'elle pose un certain nombre d'exigences.
Oui, alors est-ce que ça ne veut pas dire aussi que la phase de l'après-après 89, c'est de retrouver une puissance de réflexivité ? C'est-à-dire qu'on a vu cette nécessité de dire toutes ces normes, de montrer les conséquences néfastes qu'elles impliquent, et notamment en termes d'inégalité. Et est-ce que le rôle des juristes, ce n'est pas de reprendre de manière absolument infinie et qui n'auront jamais véritablement achevé, de formuler pour rendre justiciable de principe, pour rendre justiciable de jugement politique. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, comme on le voit.
Non, mais je pense que c'est de la phase dans laquelle nous sommes. Effectivement, il faut... on a été dans cette phase de standardisation, de mondialisation, de développement. Prenez là encore tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Mais on voit bien aussi qu'on est, tant au niveau des citoyens que des institutions qui pensent encore gouverner, dans une période où d'une tentative de reprise d'un contrôle. La seule chose que je peux dire pour avoir étudié ces choses-là depuis longtemps, c'est soyons intelligents dans les formes de ce contrôle. Ne pensons pas que les moyens qu'on utilisait au XVIIIe siècle peuvent être efficaces pour obtenir les contrôles sur les normativités que nous avons évoquées du XXIe siècle.
Alors, Benoît Friedman, pour achever cette émission, un mot d'espoir, un mot de positif sur un retour du droit, un retour de la politique, la définition d'alternative peut-être face à ce monde dans lequel qui se présentait comme la vérité scientifique sans aucune alternative.
Alors, moi, je pense que l'aventure continue. Je ne crois pas que c'est le retour à des formes anciennes qui va nous sauver, mais je crois qu'il nous appartient, sur base des valeurs qui sont les nôtres, et notamment celles de la justice que porte le droit, d'inventer les instruments nouveaux qui vont permettre de contrôler les techniques qui se mettent ou qui sont en place.
Merci beaucoup, Benoît Friedman.
Merci, Antoine Garapon.
Matière à penser, Benoît Friedman, Claude Niort, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et demain soir, je vous donne rendez-vous pour conclure cette semaine avec Stephen Holmes, professeur à New York. À demain.